il est 13h. Le journal, Yves Decamp.
Bonjour. La France reconnaît Juan Guaido comme le nouveau président du Venezuela, président par intérim, qui devra mettre en œuvre un processus électoral. Les Vénézuéliens, écrit Emmanuel Macron dans un tweet, ont le droit de s'exprimer librement et démocratiquement, ce que disait ce matin sur France Inter Jean-Yves Le Drian.
Nous considérons que aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, M. Guaido, dont la légitimité est parfaitement reconnue, qu'il est habilité à provoquer des élections présidentielles.
Londres, Madrid et Berlin ont fait de même. Elle était partie en 2015 en Syrie et en Irak, où elle a été condamnée pour terrorisme à 20 ans de prison. C'est une Française, Mélina Bouguédir, qui purge aujourd'hui sa peine à Bagdad, sans regret. Sophie Parmentier a pu la rencontrer, c'est une exclusivité France Inter. Le grand débat suite et pas fin. Le chef de l'État, ce soir dans l'Essonne, a commencé ses consultations à l'Élysée ce matin, avec pour commencer les présidents des députés, La République En Marche et Les Républicains. Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, propose de son côté de réviser le dispositif des niches fiscales. Et l'UFC Que Choisir avance 12 propositions pour le pouvoir d'achat sur la grande distribution, les banques, les assurances santé. Le président de l'association des consommateurs, Alain Bazo, sera notre invité. Quand les accusateurs sont mis en accusation, c'est l'affaire dans l'affaire Baupin. L'ex-adjoint écologiste de Paris, accusé d'agression sexuelle, a porté plainte contre les femmes qui l'avaient mise en cause et les médias qui avaient révélé l'affaire, dont France Inter. La journée mondiale contre le cancer, 4 victimes et familles de victimes portent plainte contre les autorités sanitaires pour un traitement prescrit sans précaution et qui s'est avéré dangereux. Et puis la semaine olympique et paralympique des athlètes dans les collèges, cette semaine pour vanter les mérites et les valeurs du sport. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Et c'est encore très frais aujourd'hui.
3 à 8 degrés attendus, 7 à 15 tout de même sur les côtes de l'ouest et de la Méditerranée. On a du soleil sur le sud-est, des Alpes à l'Alsace, ailleurs du gris, de la pluie, de la Bretagne et des Charentes vers le bassin parisien, le nord de la Seine. Et puis parfois un petit peu de neige des collines normandes vers l'ouest de la région parisienne et la frontière belge, mais c'est seulement temporaire.
Le bulletin météo complet en fin de journal.
France Inter.
Au Venezuela, un président nommé Guaido s'était attendu. La France reconnaît officiellement l'actuel président de l'Assemblée nationale comme le nouveau président par intérim dans ce pays, le Venezuela, où du point de vue d'Emmanuel Macron, qui l'a dit sur Twitter, il aura en charge d'organiser une nouvelle élection présidentielle. C'est ce que demandaient les Européens à Nicolas Maduro, qui leur a répondu ce week-end d'aller s'occuper de leurs affaires. En conséquence, Paris, mais aussi Londres, Madrid et Berlin ont tranché. Bertrand Galichet.
Oui, la première reconnaît Juan Guaido comme président en charge du Venezuela pour mettre en œuvre un processus électoral, où la France parmi les premiers. En tout cas, ce tweet d'Emmanuel Macron ce matin vient confirmer la position française en pointe dans le bras de fer qui oppose le pouvoir en place à Caracas et le chef de l'opposition. Le rejet de l'ultimatum par Nicolas Maduro appelait mécaniquement cette réaction diplomatique à laquelle s'associent déjà le Royaume-Uni et l'Allemagne, sans oublier l'Espagne, très concernée, qui compte 170 000 ressortissants au Venezuela. Les Pays-Bas et le Portugal avaient eux aussi fixé un ultimatum à Maduro, et d'autres pays européens pourraient suivre en accordant une légitimité intérimaire à Juan Guaido. Car cet appui doit permettre à l'opposant d'organiser un scrutin présidentiel dès que possible, un soutien diplomatique d'importance qui ne résout pas la crise politique sur place. Nicolas Maduro fera tout pour s'opposer à une nouvelle élection présidentielle. Et il va falloir aux Européens et aux autres pays favorables à une remise à plat du jeu électoral au Venezuela beaucoup de ténacité et d'imagination s'ils veulent imposer un retour aux urnes. Les États-Unis, qui menacent d'une intervention militaire, ne leur facilitent pas la tâche.
Et le président, toujours en titre, Nicolas Maduro, comme l'a fait aussi le Kremlin, dénonce bien sûr les ingérences étrangères. Ce qu'a réfuté Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, invité de France Inter ce matin. Il n'y a pas d'ingérence, dit-il, à partir du moment où le président Guaido lance un appel à l'aide pour rétablir la démocratie. À propos de Jean-Yves Le Drian, il était ce matin aussi donc l'invité de France Inter. Il a aussi confirmé la position du gouvernement français sur les ressortissants liés à l'État islamique en Syrie et qu'il faudra peut-être rapatrier en cas de retrait des Américains pour éviter qu'ils se dispersent, a-t-il dit. Mais quid des djihadistes ou de leurs familles retenus en Irak. C'est le cas, par exemple, de Mélina Bouguédir, dont nous parlons depuis ce matin, française partie en 2015 avec son mari et ses enfants, trois enfants, aujourd'hui âgés de 4, 6 et 8 ans, et qui sont rentrés en France. Mais elle, dont le mari est présumé mort, a été condamnée à 20 ans de prison par la justice irakienne. Et c'est dans sa prison de Bagdad où elle vit avec sa dernière petite fille de 2 ans que vous l'avez rencontrée, Sophie Parmentier, en exclusivité pour France Inter.
Oui, la dernière fois que nous l'avions vue, c'était à la Cour pénale centrale de Bagdad, debout au centre d'une cage de bois, son bébé dans les bras. Mélina Bouguédir jurait alors aux juges irakiens moustachus qu'elle n'avait jamais adhéré à l'idéologie de Daesh, juste suivi son mari, Maximilien Thibault, aujourd'hui présumé mort. Vous l'avez dit, elle l'a toujours présenté comme cuisinier, sans jamais convaincre la justice irakienne. Il y a 8 mois, lors de son dernier procès, Mélina Bouguédir a donc été condamnée à 20 ans de prison, une peine qu'elle n'a pas comprise et qu'elle ne comprend toujours pas, d'autant que peu avant ce jugement, elle avait failli être libérée. Elle dit aujourd'hui qu'il faut la sortir de là, répète qu'elle n'a jamais fait partie de la police de Daesh. Elle nous parle sous le regard de la directrice de la prison qui l'oblige à répondre en arabe pour mieux surveiller ses réponses.
J'ai rien fait, il n'y a pas de preuves. Tout le monde me connaît. Moi, dans la police, avec 4 enfants, c'est des mensonges.
La tête couverte d'un foulard violet, vêtue de 2 longues robes enfilées l'une sur l'autre, Mélina Bouguédir tient sa fille accrochée à son cou. Son bébé de 2 ans ouvre de grands yeux inquiets, grignote un morceau de pomme. Elle n'a pas de jouet dans la prison, nous dit sa mère, toujours avec elle sur le même matelas dans la cellule, à 90 femmes et enfants par cellule, dit-elle. Ensemble, elle regarde souvent des photos des 3 aînés de 4, 6 et 8 ans, rapatriés en France en 2017. Et Mélina Bouguédir n'a pas pu leur téléphoner depuis plus d'un an. Pour la mère de Mélina Bouguédir, qui voit régulièrement ses petits-enfants rentrer en France, cette situation est un crève-cœur.
Moi, je demande vraiment aux autorités de la rapatrier, d'être avec ses enfants, même en prison ici, qu'elle prend la peine qu'elle a, mais qu'elle soit avec ses enfants, auprès de ses enfants, qu'ils puissent aller la voir à la prison et tout ça. Et c'est vrai que depuis qu'elle est là-bas, une seule fois, elle a parlé à ses enfants. C'est pas normal. C'est pas normal.
Mais les autorités françaises ont toujours estimé que la justice irakienne était souveraine en son pays tant qu'elle n'appliquait pas la peine de mort pour les Français. Dans la prison de Bagdad, la directrice nous demande d'insister sur l'humanité, dit-elle, avec laquelle les enfants des djihadistes sont traités. Et elle donne devant nous un ballon de baudruche au bébé de Mélina Bouguédir qui l'attrape sans sourire.
Voilà, une Française incarcérée à Bagdad et qui attend son procès en appel. Une histoire à suivre sur franceinter.fr, bien sûr. On y reviendra également avec Fabienne Sintès à 18h. On a entendu dans son témoignage qu'elle ne regrettait rien de son parcours, en tout cas sur le fond. Alors peut-on lui faire confiance? Et de façon générale, peut-on espérer des ex-soutiens de Daesh qu'ils se repentent? Pas sûr. Pour Hugo Micheron, chercheur à l'École normale supérieure, il est spécialiste du djihadisme.
En fait, la question du retour de ces hommes et femmes qui ont quitté la France pour rejoindre Daesh est tout sauf anodine. Ce qu'il convient de rappeler premièrement, c'est que s'ils souhaitent désormais rentrer, c'est parce que le califat de Daesh s'est effondré. Tant que Daesh était en expansion, il n'était pas question pour eux de retour. La plupart des personnes qui sont encore sur place sont d'ailleurs les jusqu'au boutistes, puisque la plupart des autres sont déjà rentrés ou ont cherché à rentrer bien avant, en 2014, en 2015, quand la situation était déjà terrible sur place. Donc ça, c'est le premier élément. On parle d'individus qui, évidemment, ont tout intérêt aujourd'hui à dire qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont pas participé aux activités, voire qu'ils étaient sous Daesh contre leur gré. Mais la plupart du temps, c'est soit beaucoup plus ambigu, soit tout à fait l'inverse. Est-ce que c'est l'intérêt de la France? Ça, c'est autre chose. Gérer 130 retours de Syrie et d'Irak, c'est un vrai problème qui pose des questions majeures pour la société française. Quand on voit la difficulté de gestion de quelques dizaines d'entre eux en détention, c'est évidemment pas une question anodine.
En politique, la suite du grand débat partout en France et en particulier pour Emmanuel Macron, cette fois en banlieue. Le président de la République sera ce soir à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne pour un dialogue avec les élus et militants associatifs. Ce matin, il a commencé ses consultations à l'Élysée en recevant le patron des députés de La République En Marche et celui des Républicains avec à l'ordre du jour, sujet parmi d'autres, l'hypothèse du référendum. Laurent Sénéchal.
Un référendum à choix multiples sur les questions institutionnelles et pourquoi pas le jour des élections européennes le 26 mai prochain. C'est l'idée qui revient avec insistance depuis quelques jours. Mais pour l'instant, rien n'est tranché, précise Gilles Legendre, patron des députés En Marche, après son entretien avec Emmanuel Macron.
Je pense que le débat sur le référendum, comme le débat sur toutes les autres questions qui sont au cœur du grand débat national, sont légitimes, mais aujourd'hui, la décision du référendum n'est absolument pas prise.
L'idée est accueillie plutôt fraîchement, y compris au sein de la majorité. Un poids lourd du gouvernement estime le calendrier trop serré. Il vaudrait mieux attendre juin ou même septembre, selon lui. Stanislas Guérini, chef du parti La République En Marche, parle, lui, d'une question secondaire à propos de ce référendum. Du côté des Républicains, Christian Jacob, le chef du groupe à l'Assemblée, a lui estimé depuis l'Élysée qu'un référendum était hors sujet.
La crise, c'est d'une crise du pouvoir d'achat. Je ne vois pas de sujet qui soit d'ordre référendaire, mais peut-être qu'il y en a. En tout cas, le référendum ne peut pas être utilisé comme une manœuvre politicienne visant à étouffer le débat européen.
Outre Christian Jacob et Gilles Legendre, Emmanuel Macron doit poursuivre sa consultation des partis mercredi, toujours à l'Élysée, avec la réception de Jean-Luc Mélenchon, patron des députés France Insoumise, et Marine Le Pen du Rassemblement National. À l'Élysée, Georges Thau, Laura Sénéchal pour France Inter.
Parmi les revendications avancées depuis deux mois maintenant par les Gilets jaunes, il y a bien sûr la justice sociale et fiscale. Revendication entendue ce matin par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui voudrait réviser l'actuel maquis des niches fiscales. Des avantages, pour parler clairement, qui représentent pas loin de 14 milliards d'euros, soit, dit-il, au hasard, quatre fois plus que l'ISF. Alors les remettre en cause, mais comment, Raphaël Ebenstein, le ministre n'a pas donné de précision.
Ce n'est pas le sujet, je suis là pour parler du prélèvement à la source, a d'abord tenté de répondre Gérald Darmanin aux nombreux journalistes présents à Bercy, mais le ministre de l'Action et des Comptes Publics les a justement fait, les comptes, les 9% des contribuables les plus riches captent aujourd'hui la moitié du montant total des niches fiscales, environ 7 milliards d'euros, d'où l'idée d'un plafonnement de certaines niches. La prudence reste de mise, même si Gérald Darmanin se risque à donner un exemple.
Peut-être que l'on pourrait se dire que lorsque l'on change son simple vitrage pour passer en double vitrage, la classe moyenne mériterait d'être aidée et que les gens qui gagnent beaucoup d'argent pourraient peut-être le financer en partie eux-mêmes. Voilà, c'est une proposition. Puisque je suis citoyen de la République, je me semble que j'ai aussi le droit de donner quelques idées.
Faut-il n'y voir que la simple contribution d'un ministre au grand débat ou une manière de détourner le sujet de l'ISF plutôt sur les niches fiscales? Gérald Darmanin sera resté en tout cas assez flou aujourd'hui sur les niches qui pourraient être plafonnées et sur le calendrier d'une éventuelle réforme.
Raphaël Ebenstein avec François Rivalan, Gérald Darmanin qui se dit défavorable à une réforme de l'impôt sur le revenu comme le propose notamment Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. À propos du grand débat, toujours à chacun ses propositions, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a fait paraître les siennes. 12 propositions regroupées dans un plan d'urgence pour le pouvoir d'achat, mesures concernant la grande distribution, les banques, les assurances santé, le logement et qui seraient susceptibles de augmenter le pouvoir d'achat des Français de 9 milliards, soit 320 euros par ménage sur une année. Invité de ce journal, Alain Bazot, le président de l'UFC, bonjour.
Bonjour.
Alors 320 euros par ménage, pour une année, c'est pas beaucoup hein, finalement.
Ben, c'est pas beaucoup, c'est quand même pas rien. Quand le président Macron avait annoncé ces mesures, c'était également 10 milliards d'euros. Donc je veux dire, mesure après mesure, quand on connaît l'état de finances de nos concitoyens les plus modestes, je vous assure que 320 euros, c'est pas l'épaisseur d'un trait.
Et le tout sans surcoût, dites-vous, pour les finances publiques?
Oui, c'est un peu la logique de nos trois mesures. C'est d'abord de reprendre la main sur la logique du pouvoir d'achat qui a été le point de départ quand même de la mobilisation d'un certain nombre de nos concitoyens. Et donc on remet au centre du débat la notion de pouvoir d'achat avec le premier axe qui est les dépenses contraintes. Souvent le pouvoir d'achat, on ne voit que les revenus, on voit les pensions, mais il ne faut pas oublier que le pouvoir d'achat, c'est ce que je gagne, mais c'est aussi comment les prix se forment. Donc tout ce qui est dépenses contraintes, évidemment alimentation, banque, énergie, etc., on a des mesures. Et la deuxième logique, c'est qu'il n'y ait pas de surcoût pour les finances publiques, vous l'avez dit, et puis dans une logique, c'est la troisième logique, de porter l'ambition d'une société de consommation plus responsable, plus respectueuse de la santé et de l'environnement.
Alors justement, parmi les mesures que vous proposez, il y a la suppression de ce qui vient tout juste d'entrer en vigueur dans la grande distribution, le relèvement du seuil de revente à perte. C'était destiné à mieux rétribuer les agriculteurs. Alors pourquoi revenir dessus ?
Entre ce qui était destiné et puis la réalité, on n'a toujours pas de démonstration que faire payer plus cher les consommateurs, de forcer la grande distribution à avoir des marges supplémentaires, quand elle vend du café, quand elle vend du cacao, on ne voit pas en quoi les agriculteurs français vont avoir leur revenu qui est augmenté. Donc ce sont des paris fous qui sont faits, comme si la grande distribution, qui va se voir restituer des marges de façon automatique, plus de marges, allait, j'allais dire, parce que c'est bisounours, parce qu'ils ont le cœur sur la main, ils vont donner plus d'argent à l'industrie agroalimentaire, et puis les grands de l'industrie agroalimentaire vont spontanément donner plus aux agriculteurs. Tout ça, par le passé, ça n'a pas fonctionné. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation des prix qui est considérable, qui a été expertisée par plusieurs autorités dignes de ce nom, y compris l'autorité de la concurrence. Donc un impact inflationniste sans précédent, avec une hypothèque sur le fait que ça revienne aux agriculteurs, qui eux-mêmes commencent d'ailleurs à douter du schéma qui est complètement farfelu.
Alors dans le collimateur, vous avez aussi les banques. Hein. Vous demandez la suppression des commissions d'intervention en cas d'incident bancaire, ou bien la portabilité du numéro de compte pour pouvoir changer de banque plus facilement. Quel rapport avec le pouvoir d'achat ?
Alors, il faut savoir que aujourd'hui, la concurrence entre banques ne joue pas. Puisqu'elle ne joue pas, évidemment, tout ce qui est commission d'intervention, il est clair que les consommateurs sont captifs, ils subissent ces peines qui n'ont aucune raison économique, puisqu'il y a tout un tas de frais qui sont payés par ailleurs par les consommateurs. Là, ce sont vraiment des frais sanctions. Le consommateur est sanctionné parce qu'il y a un chèque sans provision, parce qu'il y a un découvert, et ça n'a pas de rapport avec le coût d'un service rendu, de traitement de ce dépassement. Et là, on est sur des milliards d'euros qui sont ponctionnés sur les plus fragiles. Et puis, pourquoi favoriser la concurrence ? Parce que, évidemment, que la pratique des tarifs bancaires, pourquoi elle s'envole ? Parce que les consommateurs ne peuvent pas changer de banque. Malgré les réformes, ça devient très compliqué. Comme je le dis souvent, vous savez, dans une vie, on change plus souvent de partenaire qu'on change de banque. Et oui. Je ne crois pas que c'est parce qu'on est fidèle à la banque et pas fidèle à son partenaire, c'est parce qu'on ne peut pas. Donc, introduire, comme c'est dans d'autres pays, comme on l'a fait en téléphonie, c'est-à-dire, je quitte ma banque, mais je garde mon numéro de compte. Techniquement, ça paraît tout bête, mais ça favorise une plus grande liberté du consommateur de quitter une banque et donc de faire jouer la concurrence et d'inciter les tarifs des banques à diminuer.
Voilà, pareillement, vous voulez faciliter aussi le changement d'assurance santé. On ne peut pas tout passer en revue.
Bien sûr.
Merci à vous, Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, donc, qui fait ce matin 12 propositions pour le pouvoir d'achat.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decaen.
C'est l'affaire dans l'affaire. Au tribunal correctionnel de Paris, ce matin, s'est ouvert un procès en diffamation visant notamment France Inter et Mediapart. Procès intenté par Denis Baupin, l'ex-adjoint écologiste à la mairie de Paris, accusé d'agression sexuelle et de harcèlement avant que l'affaire ne soit classée sans suite. C'était en mars 2017, classée sans suite pour raison de prescription. Celui qui était aussi vice-président de l'Assemblée nationale s'est retourné ensuite contre ses accusatrices, 8 femmes, dont 4 élus écologistes, qui sont aujourd'hui donc appelé à comparaître en même temps que les journalistes qui avaient rapporté leur témoignage. Jean-Philippe Degnaud, le procès s'est ouvert sans le plaignant ce matin.
Mais oui, il y a Sandrine, Hélène, Isabelle, Annie, Geneviève, toutes celles qui ont témoigné dans les articles de Mediapart et de France Inter. Elles sont là au procès en diffamation que leur fait celui qu'elles ont accusé d'agression sexuelle ou de harcèlement. Elles sont là, mais en face, il n'y a pas le plaignant, juste son avocat pour leur répondre. « Mon client n'avait pas envie de venir subir les pires injures », plaide Emmanuel Pierrat. « Tout ce que ces femmes ont raconté est faux », insiste-t-il en requalifiant les journalistes de France Inter et Mediapart de roule-tabille et Tintin. Le tribunal ne peut que regretter l'absence de Denis Baupin, mais il est dans l'impossibilité de l'obliger à venir. Alors le premier à s'exprimer à la barre ce matin, c'était Louis Plenel, le patron de Mediapart. Il évoque une enquête délicate menée avec sérieux, minutie, patience, un travail exemplaire, dit-il. Denis Baupin parle de son pouvoir de séduction, mais non, insistait Louis Plenel. Cette affaire est un abus de son pouvoir de domination. Nous faisons du journalisme d'alerte, je le revendique et je l'assume, conclut le directeur de Mediapart. Alors, diffamation ou pas, les débats reprendront demain après-midi, ici au tribunal de Paris.
Jean-Philippe Degnaud, à propos de Mediapart, les dirigeants du site annoncent avoir refusé ce matin une perquisition de leurs locaux dans le cadre de l'affaire Benalla, une enquête qui viserait les enregistrements révélés par Mediapart, enregistrements de Benalla, et qui serait susceptible, selon le journal, d'atteindre le secret de ses sources. Et puis un corps a été repéré dans l'épave de l'avion qui transportait le footballeur nantais Emiliano Sala, repéré par des images vidéo. L'épave de l'avion d'Emiliano Sala et de son pilote avait été localisée hier dimanche dans la Manche. Il s'appelle le 5-FU, c'est un médicament anticancéreux, l'une des molécules les plus prescrites pour les chimiothérapies, dans le cas notamment d'un cancer du sein, du côlon, de l'estomac ou du système ORL. 80 000 personnes y ont recours chaque année, mais pour être efficace, la molécule n'est pas sans danger, elle peut même être mortelle pour certains patients présentant un profil génétique particulier auquel manquerait notamment une certaine enzyme. Les risques sont connus depuis 30 ans mais ne seraient pas suffisamment pris en compte si l'on en croit 4 victimes et familles de victimes qui portent plainte ce lundi. Journée mondiale contre le cancer, porte plainte contre les autorités sanitaires. Véronique Julliard.
Les victimes sont deux femmes d'une soixantaine d'années, soignées toutes les deux pour un cancer du sein, un homme de 45 ans soigné pour un cancer du pancréas et un autre pour un cancer colorectal. Les trois premiers sont morts en 2016 et 2017. Le quatrième a très mal vécu une cure de chimiothérapie. Il s'en est sorti grâce à un test de dépistage qui a permis tard, mais quand même à temps, de comprendre la cause de son mal et de réduire la dose de son traitement. Car la toxicité de ce médicament, par ailleurs très efficace, on la connaît depuis 30 ans. La molécule est dangereuse pour certains profils génétiques, il suffit de faire le test pour juger d'une éventuelle contre-indication. Alors, puisque le risque est connu et que les tests sont disponibles depuis des années, pourquoi les autorités sanitaires ont-elles attendu 2018 pour faire des recommandations? C'est la question que posent les plaignants aujourd'hui par la voix de leur avocat, maître Vincent Julet Parade.
Il aura quand même fallu attendre février 2018 pour que la NSM émette une recommandation. Il a fallu attendre décembre 2018 pour que l'HAS prenne une décision. Donc bien sûr, valider des tests, ça prend du temps, et ça on l'entend. Maintenant, la question c'est pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que des processus de réflexion officiels soient mis en route?
On sait que 10 à 40% des patients seraient plus ou moins intolérants à la molécule. Elle serait mortelle pour 0,2 à 0,8% d'entre eux.
Et à l'occasion de cette journée mondiale contre le cancer, les autorités sanitaires rappellent par ailleurs l'importance de la vaccination contre les papillomavirus humains. Elle est sûre et indispensable contre le cancer du col de l'utérus, précisent les autorités pour s'opposer bien sûr aux rumeurs qui circulent sur ce vaccin. On parlait du chef de l'État qui sera ce soir dans l'Essonne. Eh bien, trois de ses ministres, eux, étaient ce matin en Seine-Saint-Denis pour lancer la semaine olympique et paralympique. Pour la troisième année consécutive, une centaine d'athlètes vont aller toute la semaine dans les établissements scolaires pour vanter les mérites du sport et de ses valeurs. Pour Jean-Michel Blanquer, Roxana Maressiné-Anou et la secrétaire d'État au handicap Sophie Cluzel, c'était donc ce matin dans une classe de quatrième du collège d'Oramar à Saint-Denis, Guillaume Batin.
La séance commence avec les extraits de deux films. Billy Elliot, un jeune garçon qui veut faire de la danse.
Nom de Dieu, Billy Elliot, tu fais honte à ton père.
Et joue là comme Beckham, l'histoire d'une jeune fille qui rêve de devenir footballeuse professionnelle.
Il faut que tu commences à te comporter en femme.
Marie-Amélie Le Fur, la triple championne paralympique. Et Sarah Ouramoun, la médaillée d'argent aux Jeux de Rio. Deux championnes venues pour casser les clichés et faire de la place aux rêves.
Moi j'ai boxé pendant 20 ans. C'était en 96. Et en 96, en France, les femmes n'avaient pas le droit de boxer. Ma mère, la boxe était requise. C'était le nez cassé, c'était du sang. Et une femme, ça pouvait pas être en short et avoir le nez cassé.
Marie-Amélie Le Fur.
On sait très bien que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut agir sur les stéréotypes pour pas qu'ils s'installent dans la durée et que le sport reste un moment de partage, de vivre ensemble et surtout qu'il reste accessible à tous.
Chris, un élève de 4e.
C'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas faire du sport et qu'on n'a rien, on a rien sans rien, que si on veut faire du sport, alors qu'on peut pas, faut se donner les moyens de pouvoir les faire. Rien n'est impossible si on s'en donne les moyens.
Et il reste 2000 jours d'ici l'ouverture des JO de Paris 2024 pour faire passer le message. À Saint-Denis, Guillaume Batin, France Inter.
Voilà, des collégiens qui sont peut-être déçus ce matin au lendemain de la défaite du PSG en Ligue 1. C'est un événement. Les Parisiens qui étaient invaincus en championnat cette saison sont tombés hier soir à Lyon. 2-1 sans Neymar, ni Verratti, mais ça ce n'est pas une première. C'est en tout cas inquiétant pour le match de Ligue des Champions dans 8 jours à Manchester où Neymar ne sera pas
pas. Allez, des nouvelles ce lundi. Pour terminer, des nouvelles d'une grande dame, toute petite par la taille, mais grande par sa réputation. Beaucoup lui envient sa carrière. Elle est née en 1959, elle a donc cette année 60 ans. Elle, c'est la Mini. Voiture légendaire vendue à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. La Mini, c'est tout un mythe. Mais qui connaît vraiment son histoire? Le salon Rétromobile, le rendez-vous des amoureux de vieilles voitures qui ouvre ses portes dans 2 jours à Paris, va nous la raconter. Des Mini de tous âges et de tous styles y seront exposés, prêtés par des collectionneurs français et étrangers. Parmi eux, Arnaud de Beaucaron, c'est l'un des plus mordus de ces collectionneurs, fou des Mini depuis l'âge de 10 ans, autrement dit l'année de la création de la Mini. Il en a eu jusqu'à 14 dans son jardin, une maxi-passion qu'il raconte dans sa Mini, bien sûr, à Sandrine Houdin.
Au départ, c'était une voiture populaire parce qu'effectivement, il fallait faire une petite voiture économique qui puisse quand même transporter 4 personnes, voire 5, avec un coffre pour faire une petite voiture familiale.
Elle a tout de suite plu.
Ça a été pas assez difficile au départ. Et puis progressivement, lorsqu'ils ont décidé de sortir des versions sportives qu'ils ont appelées Mini Cooper, alors là, ça a été le grand rush puisqu'ils en ont fabriqué plus de 5 millions.
Autre look.
Alors, en parallèle, ils ont eu l'intelligence aussi de sortir des modèles dits commerciaux en la rallongeant un petit peu, qu'ils ont appelé van. Elle a servi pour les transports même de marchandises. Elle a servi aussi pour la police.
On la connaît mal finalement parce qu'il y a même eu, un modèle pour les militaires.
Alors, il y a eu effectivement un prototype qui a été lancé qui s'est appelé Minimoc, qui était destiné à l'armée, mais malheureusement la garde au sol était insuffisante et du coup elle n'a pas été adoptée par l'armée. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue une voiture de plage.
Après, elle a pas arrêté de changer de look encore et encore.
Il y a eu des faces avant qui ont changé, puis ils ont sorti un modèle qui s'appelait Wosley ou Riley, avec un petit coffre pour permettre d'avoir un peu plus de place pour mettre les bagages.
Vous avez quel âge quand vous conduisez une Mini?
Ah, moi je redeviens un gamin.
14 Mini chez vous?
J'ai eu presque 14 Mini chez moi. C'était ma picouse quoi.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de plus?
Je pense qu'elle est différente des autres. Elle a peut-être un petit côté sexy aussi, elle sort de la banalité.
Votre rêve, si vous deviez acquérir tout de suite, là maintenant, là, une Mini?
Je pense que je prendrais une Cooper S des années 60, 65. Les premiers modèles qui sont les MK1.
Et alors là, on vous voit plus, hein. Vous partez là.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, tout est Mini dans notre vie, comme le chantait Jacques Dutronc. Le salon Rétromobile et la saga de la Mini, c'est de mercredi à dimanche au Parc des Expositions, porte de Versailles à Paris.